France Culture. Le journal, Diane Berger.
Bonjour à toutes et à tous, il est 8h, bon dimanche à l'écoute de France Culture. La presse française face aux intelligences artificielles génératives. À la veille de l'ouverture du sommet sur l'IA à Paris, plusieurs organisations co-signent une tribune pour dénoncer le pillage du contenu des journaux pour nourrir les algorithmes. Quelle suite donner au cessez-le-feu à Gaza? Les négociations sont dans l'impasse au Proche-Orient. Et puis, séjour de législative au Kosovo, le bon élève des Balkans en termes de pratiques démocratiques. Reportage de notre correspondant Louis Seyé à la fin de ce journal. Emmanuel Macron doit prendre la parole ce soir sur la chaîne France 2, allocution à 20h30 dédiée à l'intelligence artificielle. Cela à la veille du sommet pour l'action sur l'IA, demain et mardi à Paris. À quelques jours de cet événement, une quarantaine de journaux français, dont Libération, ont demandé à la justice jeudi de bloquer le site newsday.fr car il utiliserait, selon eux, l'IA pour plagier leurs articles. Et mercredi dernier déjà, 5 organisations représentant plus de 3000 titres de la presse française ont signé une tribune, Mathilde Ansker, où elles dénoncent le pillage de leur travail par l'IA.
Pillage, le mot est fort, mais assumé. Julie Lorimi dirige le syndicat des éditeurs de la presse magazine, l'une des organisations signataires de cette tribune.
Le problème, c'est que les opérateurs d'IAG ou leurs prestataires se servent des contenus de presse, fouillent dans les grandes bases de données contenant de la presse, et que cette matière-là sert à entraîner les IA génératives sans qu'à aucun moment il y ait une autorisation qui soit demandée. Donc, sans rémunération de l'utilisation des contenus que nous produisons, on ne voit pas bien comment un modèle économique durable pour nous pourrait émerger de tout ça.
Autre inquiétude sur la qualité des contenus proposés par ces IA génératives. Pierre Louette préside l'APIG, l'Alliance de la presse d'information générale, qui a aussi signé la tribune.
Il y en a certains qui citent leurs sources et d'autres pas du tout. Alors on se retrouve face à une sorte de production autonome, sans intervention humaine dans la synthèse qui est opérée et sans qu'on vous dise quelle est l'origine des produits. Il y a une traçabilité aujourd'hui pour les produits alimentaires. On vous dit d'où vient ce que vous absorbez. Et là, il faudrait que pour nos cerveaux, ce qu'on absorbe ne soit pas tracé.
Alors les organisations posent 3 conditions pour établir une coopération entre l'IA et les médias.
D'abord, il faut respecter le choix des éditeurs, et il faut le consentement, mettre fin au pillage. Deuxième condition, garantir la traçabilité des sources d'information. Et puis troisième condition, il faut s'acquitter des droits d'exploitation des contenus.
Et il insiste, ce n'est pas parce que l'IA porte une promesse de progrès qu'elle doit s'accompagner d'une régression du droit de la propriété.
Et si vous voulez approfondir vos réflexions sur l'IA, n'hésitez pas à jeter une oreille au podcast de la rédaction. L'intelligence artificielle, une arme géopolitique, un podcast en 6 volets, disponible sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Il renonce à toute expression médiatique. Nicolas Sarkozy annonce mettre entre parenthèses ses activités publiques d'ancien président 24 heures après la pose d'un bracelet électronique pour sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Sur le réseau social X, l'ex-chef d'État signale aussi qu'il va déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme d'ici à la fin du mois. Au Proche-Orient, après la libération hier de 3 otages du Hamas contre 183 détenus palestiniens, retenus, eux, dans les prisons israéliennes, les questionnements sont nombreux sur la deuxième phase de la trêve à Gaza. Les négociations doivent commencer, en théorie, à Doha. Mais pour le moment, les discussions sont au point mort, Thibault Lefèvre, et les obstacles vont être difficiles à surmonter.
Dans les 3 prochaines semaines, le Hamas doit restituer 8 dépouilles à Israël et libérer 9 otages en échange de 1200 détenus palestiniens. Mais pendant la même période, les belligérants vont devoir se mettre d'accord sur les conditions de la deuxième phase de la trêve, qui doit aboutir au retrait total des troupes israéliennes de Gaza et à la libération de la 60aine d'otages toujours aux mains de l'organisation islamiste. Pour le moment, les négociations n'avancent pas. Une source proche du cabinet du Premier ministre a fait savoir hier au journal israélien à Haaretz, que Benjamin Netanyahou envisagerait de rappeler son armée à condition que les dirigeants du Hamas soient expulsés de l'enclave. C'est une nouvelle exigence d'un gouvernement qui ne tient qu'avec le soutien de l'extrême droite favorable à la reprise des combats. L'organisation islamiste ne cesse, vague de libération après vague de libération, de montrer qu'elle est la seule capable de maintenir l'ordre à Gaza. Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir lundi pour déterminer la feuille de route des négociateurs envoyés au Qatar.
Thibault Lefèvre, les bureaux de vote sont ouverts depuis une heure au Kosovo. Les électeurs sont appelés aux urnes pour les législatives. Le parti de gauche du Premier ministre Albin Kurti est donné largement favori du scrutin qui s'annonce apaisé, libre et transparent, plus en tout cas que dans d'autres pays de l'Est de l'Europe. Une fierté pour la jeune société kosovare, Louis Seyé.
Habillé en rouge et noir, Ali Mouchai est venu assister à l'un des derniers meetings du parti de gauche Autodétermination au pouvoir depuis 4 ans. Selon ce jeune entrepreneur, la vie démocratique de son pays est un exemple pour la région.
La démocratie fonctionne bien mieux ici au Kosovo que dans tous les pays des Balkans. Les médias sont bien plus libres. Ici, pendant les campagnes électorales, tous les politiciens se font critiquer sans problème, même le Premier ministre ou le gouvernement. La démocratie fonctionne.
Face à une Serbie qui s'oppose toujours à la reconnaissance de leur pays, les 1 600 000 Kosovars sont fiers de leur jeune démocratie. À 21 ans, l'URA fait partie des 125 000 jeunes qui pourront voter pour la première fois ce dimanche.
La Serbie fait toujours beaucoup de propagande contre nous, mais ce n'est pas vrai. Vous, à l'étranger, vous croyez à cette propagande et vous pensez que le Kosovo n'est pas un État démocratique, alors que c'est absolument le contraire.
Il y a 4 ans, le Kosovo a connu une alternance politique historique sans difficulté particulière. Nahim Loha est un élu local du Parti démocratique, aujourd'hui dans l'opposition.
Moi, j'ai été 3 fois d'affilée membre de la commission électorale et pas une seule fois il n'y a eu de problème avec aucun parti politique. Pas de problème, pas d'incident, pas de violence. Les États occidentaux nous ont aidés parce qu'on sortait du communisme et on a connu aussi la guerre.
Depuis la fin du conflit avec la Serbie il y a 26 ans, de nombreuses organisations internationales supervisent et assurent le bon fonctionnement de la jeune démocratie kosovare.
Louis Seyé, une autre élection en Équateur. Les électeurs votent ce dimanche pour redonner un mandat ou non au président Daniel Noboa. Le dirigeant peu expérimenté en politique à son arrivée à la présidence il y a 2 ans tient une ligne dure face aux cartels, mais il est critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme. La météo pour conclure et ce ciel très nuageux toujours. Des pluies sont possibles sur l'Atlantique et dans le centre du pays. Et ce matin, les températures, il fait 1 degré autour de Rouen, de Limoges et de Toulouse, 4 dans la capitale et à Lille, 5 à La Rochelle, 8 à Marseille.